voyons. Après un début léger, donc le premier point sur notre ordre du jour, c'est la décision de la commission at large que nous ferions la ratification, la finalisation de la déclaration à l'AC sur une modification. Nous avons une page blanche ici, donc tabula rasa, donc nous avons 12 minutes pour écrire, ou bien on peut lancer une discussion sur des objectifs de haut niveau et peut-être que des équipes de 2 ou 3 personnes dans les corridors, les couloirs, on va les aborder et peut-être on leur demander de mettre sur pied en langage châtier les concepts exprimé par la volonté à l'AC que nous aurons discuté ici, et nous créons une version préliminaire ad hoc pour que la magie se produise. Est-ce que je peux demander à ce que quelqu'un nous dise pourquoi nous devrions faire ce travail précis? D'après ce que je me rappelle, c'était parce que nous avons commenté dans le processus de réforme du directoire, on avait dit que cette chose était nécessaire et valable. Nous devrions réitérer que nous avions une déclaration. Donc, si vous voulez bien l'afficher. Donc, est-ce qu'on va dire quelque chose d'autre que de dire que d'approuver qu'il s'agit d'une bonne chose? Est-ce qu'on va dire quelque chose d'autre que est-ce que, ou peut-être que quelqu'un pense que c'est quelque chose de négatif? Que les changements, c'est pour de dire que la transition des directeurs ne vont pas se produire après la réunion annuelle, mais se produiront au cours de la prochaine réunion annuelle, avec beaucoup de formulations par défaut, en cas où la version préliminaire n'est pas acceptée. Donc, les directeurs SON et AC entreront en fonction pas 6 mois après ce vendredi, mais à la fin de la réunion de San Francisco en particulier, il me semble. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que c'est quelque chose on devrait objecter cela, ou bien est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait soulever une objection? Mais il me semble je n'ai pas compris votre argument. Je sais que le directeur va siéger à la fin de cette réunion pour une période de transition. C'est pas pour faire référence à notre. C'est applicable à ce qui concerne, mais tout à l'AC ou membre AC va entrer en fonction. Maintenant, ils vont commencer à 6 mois après la réunion, donc ils vont commencer entre les réunions sans période de transition, sans de briefing de personnel ou quoi que ce soit, parce que beaucoup d'entre eux n'ont pas encore été sélectionnés. Et le changement dit qu'ils seront, ils vont synchroniser le directeur avec et faire correspondre avec la fin de la réunion d'une réunion. Je pense pour permettre que la formation, qu'il y ait une formation, un temps de formation, une transition entre les anciens membres et les nouveaux. Avec cette explication, c'est très important. Nous sommes préoccupés par le fait que nous voulons que cette transition soit efficace. Donc, un arrêt brusque et un démarrage frais, c'est assez épineux. Donc, j'aimerais vous dire exactement ce qu'on doit faire ici. Ce n'est pas toute la documentation, mais un survol. Les corrections au statut font 3 choses. 1, définir si la réunion a lieu entre 6 à 8 mois après la conclusion d'une réunion générale d'ICANN, le directeur territoire va chercher de faire une transition afin... S'il n'y a pas de réunions qui se produisent pendant cette période, le directoire, la transition va se produire comme maintenant, 6 mois après la conclusion de l'Assemblée. Et troisièmement, va demander que ceux qui choisissent les membres du directoire devront donner 1 mois de préavis additionnel après cette élection pour qu'il permettra avant la transition... que se produise, qu'il y ait une meilleure transition. Donc, ICANN ne devra pas faire de réunions. Historiquement, ils l'ont fait, mais ils n'en ont pas besoin officiellement. Donc, ici, c'est quelque chose qui va permettre effectuer une meilleure transition. Mais cela, à l'avenir, va nous affecter de cette manière. Et c'est que nos propres processus de sélection devront faire marche arrière pour que le président de ILAC ait 1 mois de plus pour annoncer qui sera sélectionné. Donc, je ne crois pas que ce soit terrible tous les 3 ans de faire cela. Si ILAC veut qu'on réponde à cela, je serais heureux de formuler la phrase que nous devrions dire. Vous soulevez une objection? Je suis heureuse. Donc c'est à vous de le faire, Alan. Merci beaucoup. C'était soit ça ou bien 20 minutes, on allait discuter là-dessus. Donc non, on n'a pas 20 minutes pour faire ça. Donc, Patrick n'est pas prêt. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est de discuter le processus selon lequel cette phrase sera ratifiée. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est de demander à ce qu'une motion, une requête soit soumise afin que la déclaration affirmative... Alain, comment est-ce que vous allez formuler? Vous allez dire... Est-ce que vous pouvez nous dire une idée, grosso modo, de quoi cette phrase aura l'air? Non. Je ne suis pas sûre quelle est la requête. Vous voulez faire passer la requête en l'absence de la formulation? Non, je veux dire qu'il y a un moment particulier et une manière particulière selon laquelle nous allons ratifier ou ne pas ratifier cette requête et que cela soit dans les délais. Donc, si vous pouvez nous donner une petite idée du contenu de cette formulation, c'est que at large, à l'AC, est d'accord avec la requête et encourage le directoire à la ratifier. D'accord. Je l'aurai fini à la fin de la réunion de ce matin. Si vous voulez aménager une période de 20 secondes pour le vote. Sébastien Lézy, je voulais juste faire passer la requête que Alan va écrire cette phrase bientôt. Et est-ce que c'est possible alors, Alan? Je ne voulais pas vous pressurer trop, mais il me semble que avec la seconde section après le thé du matin, on pourrait faire une ratification à ce moment-là, parce que si c'est le plan, ça, c'est très bien. C'est ce que je suggérais. Dans ce cas, on n'a pas besoin de se demander comment nous allons ratifier. Nous allons la ratifier plus tard au cours de cette session. Très bien. Donc, passer à un autre point. Patrick, très bonne entrée. Ça, c'est de la magie, monsieur. On a très, très peu de temps, on est ponctuel et le fait que vous soyez disponible, ça me facilite la vie. Donc, merci beaucoup, Patrick, d'être en avance. Donc, on va laisser à l'administratif le temps de s'organiser. Patrick va... Ah, voilà, absolument parfait. Merci de nous rejoindre, Patrick. Et maintenant, nous allons avoir un briefing du personnel de Patrick en tant que coordinateur remplaçant du groupe. Donc, la parole. Merci. Merci à tous pour me donner la parole. Je vous savais que je fais un briefing sur le F, le plan SSRF Y11, il y a un mois de cela. Et c'était vraiment utile parce que les commentaires du At Large et les premières rétroactions que nous avons reçues sur le plan ce que j'aimerais pouvoir dire au groupe brièvement, c'est qu'on a pris ces rétroactions et je pense que on a donné l'exemple pour voir comment la transparence et la redevabilité fonctionnent. Nous avons reçu les rétroactions, on a affiché une analyse, un résumé détaillé et nous avons publié la source, l'origine de ces rétroactions et on a mis cela à la disposition du public. En cours de traduction, ça va prendre un peu de temps, mais on fait des progrès et ce groupe a beaucoup à contribuer à cela. Donc, merci beaucoup. Donc, le 10 novembre, nous avons posté l'analyse et le résumé des rétroactions sur le plan SSR et nous avons besoin des observations. Avec les observations sur les activités et l'explication du rôle de ICANN, mais on a reçu beaucoup de rétroactions demandant des explications de différents domaines et je ne peux pas détailler que ICANN ne peut pas aller au-delà de son mandat et de ses statuts et il y a eu des suggestions sur la manière d'améliorer la formulation sur les activités de compliance se rapportant à la sécurité des activités également sur IP, RP, KI. Donc, on a pris cela et il y a beaucoup de feedback qu'on a reçu. Davantage de travail devrait être fait sur les analyses, sur l'ensemble du système, sur les dangers et les risques du système. Et je crois que At Large travaille, participe sur l'analyse du DNS, la sécurité du DNS et la stabilité du DNS. Et la charte sera analysée cette semaine. Donc, je serai enthousiaste d'obtenir des rétroactions, de travailler avec la communauté pour obtenir de véritables données et prendre un peu de recul et revoir ce qui se passe véritablement. Et les réponses adéquates peuvent être ensuite élaborées. Donc, Mathias, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Comme j'avais mentionné auparavant, on a affiché une red line et voici le lien où vous pouvez trouver à deux endroits différents, disponibles à la page de l'équipe de sécurité également sous l'original du plan SSR et les traductions seront publiées sous peu. Donc, si vous vous demandiez comment vos commentaires sont pris en compte, mais vous pourrez voir donc les versions actualisées. Donc, merci au At Large pour vos contributions. Pour continuer maintenant, c'est d'améliorer notre prise de contact et nous allons communiquer avant février, avant la réunion de ICANN à San Francisco nous avons reçu ces rétroactions de SAC également, que le plan que ICANN suit devrait être davantage rationalisé, moins répétitif et davantage de choses qu'on puisse faire, de choses à faire. Donc, une note brève, les discussions qui auront lieu cette semaine. Prochaine diapositive. Aujourd'hui, c'est le lancement pour l'équipe de réforme. Ils ont une session fermée au public, mais demain, il y aura une session ouverte au public de 9 à 10 heures. Et le SAC a une réunion ouverte ce matin. Et au sein des SO et des AC, il y aura une discussion des chars. Donc, vous aurez réservé un peu de temps pour cela. Donc, lors du briefing que j'ai fait pour At Large, j'ai dit qu'il serait peut-être bon de mentionner quelques observations que nous voyons dans le système et de les soulever, de les présenter. Voici, ce sont des choses qui pourraient être bonnes à discuter par la suite. Et malheureusement, on n'a pas forcément le temps de le faire ici au cours de cette réunion, mais on peut le faire lors de la réunion de San Francisco, probablement. Donc voici, on voit une augmentation des menaces, des risques qui utilisent le DNS, qui utilisent la génération de noms de domaine pour les activités de commande et de contrôle telles que Configure. Il y a autre chose, un autre botnet qui s'appelle Zeus et Likat. Je voulais juste le mentionner maintenant et ensuite on peut le ramener. Plus tard, je peux faire un briefing ou recevoir des rétroactions que la communauté, des expériences de la communauté pendant la période entre maintenant et San Francisco. Donc, je serais heureux de le faire. La prochaine diapositive, on voit qu'il y a quelques menaces, des dangers dans le système. Il y aura des possibilités des forums où on pourra le discuter une fois que cela est fait. Et cela, par exemple, des refus, des attaques de déni de service contre les registrars, les réseaux sociaux. Il y a des problèmes de routage, une erreur bien connue de redirection de routage et des nouvelles choses qui se produisent telles que Stuxnet qui utilise le système de nom de domaine pour les commandes et contrôles pour des systèmes qui n'étaient pas avant branchés avec l'Internet et les systèmes de contrôle pour les usines ou les établissements de production énergétique. At large, cela pourrait intéresser at large et également les désastres naturels qui pourraient affecter les serveurs DNS. Donc, cela débouche sur la prochaine diapositive. En tant que groupe, on a besoin de meilleures données et j'espère que le groupe de travail va nous aider à y arriver. Également des recommandations pour la gestion de risques et de matrices de DNS. Et le message est que nous voulons collaborer avec la communauté plutôt que d'imposer certaines voies pour que cela se de forum de discussion. Et maintenant, j'aimerais lancer le débat, la séance questions-réponses. Allez-y. Pouvez-vous détailler ce qu'est le Stuxnet? Qu'est-ce que c'est exactement? Il s'agit quelque chose qui a fait la une des journaux de la presse quelques mois auparavant. Si je comprends correctement, il utilisait pour la première fois le DNS afin de livrer des programmes malveillants afin d'interrompre des usines et des établissements nucléaires en Iran et utiliser le DNS de manière afin de fournir quelque chose qui pourrait les faire sortir du réseau, les débrancher. Donc, je pourrais fournir des liens sur cette recherche provenant d'experts. Ce n'est pas quelque chose auquel ICANN s'intéresse vraiment. Et peut-être que c'est juste quelque chose que le groupe devrait connaître parce que les commandes et contrôles pour les établissements énergétiques et nucléaires, avant qu'ils n'étaient pas branchés sur l'Internet, il n'y avait pas de manière pour que le système de nom de domaine puisse être exploité afin de créer des dommages. Mais maintenant, Stuxnet est vu pour la première fois comme une manière d'utiliser Internet afin de rendre infonctionnel un établissement nucléaire. Donc, c'est quelque chose dont le groupe devrait connaître et que la communauté également devrait connaître. Peut-être que je n'explique pas bien, mais je devrais fournir des informations. Je ne sais pas s'il s'agit d'une bonne description de ce qui se passe. Cela aide. Merci, Patrick. Si nous recevons des points de référence qui nous permettent de divulguer ces informations au ALS. Les experts de Symantec et Siemens ont publié beaucoup de données de référence et c'est quelque chose qui se passe dans l'espace. Donc, Bo et Neven, allez-y, suivez. Pouvez-vous me donner un détaillé résumé de l'ICAT également? Qu'est-ce que l'ICAT? L'ICAT, c'est une variante du botnet Zeus qui utilise la génération de noms de domaine afin d'activer les programmes malveillants sur des machines qui déjà étaient infectées par les botnets. Donc, il utilisait une méthode similaire que à celle de Conficker afin de distribuer des programmes malveillants et de créer des liens entre ordinateurs. Et ça pourrait être la meilleure description, mais l'ICAT est tout à fait récent, ou en tout cas une variante récente de quelque chose qui n'existait pas avant et qui existait avant. Donc je pourrais vous donner davantage d'informations plutôt que de décrire à nouveau. Ensuite, Bo. Evan?
Oui, merci beaucoup. Nous donnons la parole à Evan. En général, au sein d'ICANN, il existe un souci lié à l'idée selon laquelle ICANN doit aller au-delà des questions, des simples questions de système de nom de domaine. Et donc, la question de StockNet est une question importante, grave, sérieuse. Mais jusqu'à quel point est-ce que vous identifiez le rôle de StockNet et comment est-ce que cela va disséminer cette nouvelle génération de questions vraiment spécifiques, hein? Jusqu'où arrive le rôle de ICANN dans ces questions de sécurité et, par exemple, qui concernent les adresses de protocole du protocole IP? Quel est le rôle d'ICANN? Quel est le rôle du système de nom de domaine dans ces questions? Comme ces techniques, ces attaques utilisent le DNS, on a ici le point, le lien avec ICANN. Ici, moi, je vous en parle pour que vous preniez conscience du problème, parce qu'il y a des composantes d'Atlarch, d'ALS qui sont très proches de sites dans lesquels on peut sentir l'impact de ce problème. Donc, ICANN peut leur donner un forum dans lequel ils puissent partager des informations, dans lequel il puisse y avoir des représentants de la loi locaux et qui pourront les aider, hein, et qui pourront leur fournir des informations à ce propos. Merci, Patrick. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question du public? Quelqu'un veut prendre la parole? Les personnes ici présentes? Quelqu'un veut prendre la parole? Nous sommes ouverts. Si vous voulez prendre la parole, vous avez un micro ici. Vous pouvez, les personnes qui sont dans le public peuvent utiliser un micro ici qui est à votre disposition. Patrick, avant que tu t'en ailles, tu as offert avec une certaine sagesse de nous présenter une série de sessions informatives et je pense que les leaders régionaux sont intéressés par cette information. Quelqu'un pourrait faire le lien ou est-ce qu'il y aurait un moment, hein, pour voir un peu ces informations entre cette réunion et la prochaine réunion de l'ICANN? Je pense que ce serait très utile. Hein. Si cette information vous intéresse, moi, je peux vous fournir cette information sans problème. Oui, le secrétaire de la région va organiser une réunion au mois de janvier de l'année 2011, au cours de laquelle on pourra donc présenter cette information. Nous devons maintenant continuer à travailler. Les personnes qui veulent se joindre à nous peuvent le faire. Si nous ne pouvons pas finir la rédaction de notre lettre du groupe de travail, c'est embêtant parce que nous ne pouvons pas avancer, hein. Si vous voulez, nous pouvons entendre les commentaires concernant les déclarations ou une nouvelle version du travail de l'équipe conjointe concernant le développement des termes de référence. Et il y a un nouveau concept dans ces termes de référence. Le GNCO et le CCNCO, qui sont des organisations de soutien et qui ont travaillé à la mise en œuvre de politiques peuvent le faire. On va donc rédiger une charte constitutive ou une charte organique. Ça va être un travail qui va être fait par les différents groupes de travail d'ALAC, du GNSO par exemple, pour avoir une seule donc charte de l'organisation. Dans ce groupe est d'abord chargé de rédiger cette charte. C'est quelque chose de très intéressant du point de vue d'At-Large, parce que c'est quelque chose de nouveau pour nous. L'analyse faite par le groupe pour la stabilité et la sécurité des DNS est une analyse d'un grand intérêt. Ce groupe a un programme de travail. J'ai travaillé dans ce groupe avec eux. Ce groupe s'appelle aussi SSIS. Et il s'agit donc d'une charte organique conjointe, d'un groupe de travail conjoint, composé du CCN et du GNCO, du GNSO, qui va approuver cette charte. Si on décide que le comité at-large approuve cette charte, à ce moment-là, on l'approuve et on a fini. Voilà. Ce serait un petit peu le panorama général. C'est quelque chose de nouveau, ce que nous faisons ici. C'est pour ça que je suis vraiment pleine d'enthousiasme. Est-ce que ce matériel est à votre disposition? Est-ce que vous l'avez tous? S'il vous plaît. Et j'aimerais bien qu'on me donne une copie de ce matériel. Alors, c'est un point de notre agenda et nous n'avons pas ce matériel. C'est ma faute et je m'en excuse. Mais je vous propose de faire la chose suivante. C'est pas une charte très longue ou une lettre organique très longue. Donc, les personnes qui ont travaillé sur cette nouvelle version, si vous voulez, on va lire cette lettre. Cette lettre ou cette charte, on peut l'appeler, on va la lire. Donc, on va essayer de ensuite distribuer ce document à tout le monde, pour que tout le monde puisse l'avoir. Parce que je sais qu'il y a des gens aussi qui participent à distance, donc ce serait intéressant de pouvoir la publier sur le site. Bien, alors on va essayer de... Voyons. Est-ce que la personne qui est près de l'écran pourrait le lire, parce que moi, je suis trop loin, je ne peux pas le lire. Alors, groupe de travail conjoint pour l'analyse et la stabilité, la sécurité du DNSS. Le comité et d'évaluation à large, l'organisation de soutien de CCNSO et le GNSO. Le comité d'évaluation gouvernementale du GAC et le NRO reconnaissent le besoin de mettre en œuvre une amélioration du système de nom de domaine dans l'intérêt de toutes les organisations de soutien et des comités d'évaluation. Cela sera fait en collaboration avec le reste des participants. J'espère que les interprètes peuvent me suivre. Ces organisations décident d'établir un groupe de travail d'analyse du DNSO qui s'appelle DNCWG en accord avec ses procédures et s'engage envers le LCAWG à réaliser un travail conjoint. Objectif maintenant. Objectif est... but, si vous voulez, l'objectif du DSSAWG est d'établir une expertise générale des SO et à les participantes et de faire un reporting aux organisations participantes des points suivants, du niveau réel, de la fréquence, de la sévérité des menaces au DNS et des efforts actuels, des activités pour atténuer les menaces au DNS. Et c'est les manques qui existent dans le domaine de la sécurité et les besoins qui existent dans le domaine de la sécurité pour le DNS. Il s'agit d'un effort approprié pour que le DSSA fasse un reporting des activités d'atténuation de risque qui devrait résoudre les brèches qui existent dans ce domaine. Les parties qui participent, les SO et autres, qui ont adopté cette charte organique en fonction de leur procédure. 2.2. Porter des activités. Le DSCAWG doit limiter ses activités aux questions concernant la racine et les domaines de premier niveau dans le rôle de coordination d'ICANN et à l'administration des noms d'Internet. Je continue. Les ressources sont déterminées et dans ses missions et statuts, le DSSWG doit tenir compte des études de recherche et des initiatives qui existent dans le domaine du SSCC et de leurs objectifs en fonction des restrictions établies auparavant. Ce groupe doit faire le nécessaire pour atteindre ses objectifs. Le DSSAWG doit avoir un rôle proactif pour améliorer la participation et sa contribution à la communauté et les groupes d'experts et fournir des rapports de manière régulière et aux organisations qui participent et à la communauté d'ICANN en général. Tous les membres de ce groupe devront maintenir leur propre groupe à jour et doivent fournir un feedback au groupe DSSAWG. Il y a des questions pour le DSSA qui peuvent sortir de la partie qui les concerne. Et à ce moment-là, ce groupe doit se réunir avec les présidents des organisations membres afin d'obtenir les solutions nécessaires et de mettre en œuvre les actions pertinentes. Je pense que nous allons continuer après cette lecture. Donc, merci beaucoup. Bon, messieurs, dames, notre prochain orateur est ici. Bon, vous avez maintenant le contexte. Vous savez d'où viennent ces déclarations. Et je vais donc vous demander de regarder ce matériel. Vous aurez une copie. On va pouvoir à ce moment-là prendre les résolutions nécessaires cet après-midi. Donc, je voudrais que tout soit prêt, m'assurer que tout est prêt pour pouvoir ensuite poser les questions et donner les précisions nécessaires concernant les résolutions et pouvoir définir cette charte ou cette carte organique cet après-midi. Quand on parle de... Ah non, je parle de la prochaine session, la deuxième partie de notre session d'aujourd'hui qui arrive après la pause café. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée ce matin. Donc, je ne serai peut-être pas là. Donc, je vais le dire maintenant. Pendant la discussion, les débats qui auront lieu sur ce document... on a parlé de l'organisation des noms. Je pense que ça va vraiment c'est important ce point-là parce que on parle des ASO, on parle de la NRO dans l'organisation ICANN qui est chargée de ces SO. Par conséquent, il travaille toujours en collaboration entre eux. Et donc, nous allons parler des SEO, des AC, mais moi, je suis un peu là, je suis un peu perdue. Et peut-être qu'il faudrait qu'on utilise une autre terminologie. Hein. Par exemple, ASO. Un commentaire que je voudrais faire. Je voudrais m'assurer que pendant votre absence, qu'on travaille sur cette question dans le groupe de travail, parce qu'il y a eu une réponse dans le groupe de travail concernant la version préliminaire. Donc, je vais établir cela dans la version préliminaire. Je vais m'assurer que la réponse de l'équipe vous parvient. Merci. Madji, vous avez la parole. RAA, le RAA, c'est l'accord d'accréditation de registraire. Hein? Je vais vous en parler. Alors, je suis ici pour vous parler du RAA, qui est l'accord d'accréditation des registraires. Quelqu'un signe avec tous les registraires au bureau d'enregistrement pour les noms de domaine. Je vais vous donner un contexte pour vous expliquer un petit peu où est-ce qu'on en est. Hein, ce projet vise à explorer les amendements pour le RAA concernant les conditions, les termes pour inclure des protections qui pourraient aider les registrants à respecter la politique de sécurité de notre organisation. Pour vous donner un peu de contexte, en 2007, ICANN a fait une révision générale de cet accord d'accréditation du bureau d'enregistrement parce qu'on a eu des problèmes hein, avec certains registrants. On a donc mis en place un processus pour amender cet accord et cela nous a mené en 2009 à l'approbation de cet accord par le GNSO et on est parvenu à un accord selon lequel cet accord serait réanalysé. Il y avait des préoccupations. La communauté pensait qu'elle n'était pas assez concernée par ce RAA et il a fallu donc donner l'occasion à la communauté d'analyser les amendements à réaliser. Donc en 2009, au mois de juin 2009, le directoire a approuvé la version préliminaire du RAA. On a établi un groupe de travail avec la commission at large et le GNSO et on a mis en place un processus pour analyser ces amendements et il a fallu travailler sur la charte organique concernant les responsabilités pour les registraires. En octobre 2009, on a fait le rapport final sur cette question. Et donc, je vous donne le lien pour que vous puissiez accéder maintenant au rapport final sur cette question. Hein. Ce que le groupe fait, c'est une version préliminaire de la charte contenant la responsabilité des registrants et les différentes questions concernant cet accord. Ensuite, il a fallu identifier les questions potentielles donnant lieu à de futurs amendements. Et ensuite, il a fallu développer un processus pour continuer à avancer dans le domaine de ces amendements. Et c'est cela, c'est ce que nous faisons actuellement. Ça nous a demandé 2 ans de travail. Le premier travail concerne la rédaction des droits et des responsabilités des registraires. Il y a un site web, un site internet qui identifie les droits actuels des registrants et je pense que notre préoccupation ici c'est qu'on avait besoin de davantage d'informations pour que ces registrants puissent comprendre quelles étaient leurs responsabilités et respecter les critères du RAA. Donc on a mis tout cela dans cette charte, tout cela figure dans cette charte et on explique comment est-ce que cette rédaction découle d'un travail d'ALAC. On a essayé d'utiliser un langage qui ne soit pas trop plein de mots de droit, hein, qui soit rédigé dans un anglais simple, qui puisse être compris par tous les registrants. Donc, cette charte sera... Et le but de cette charte, ce sera d'établir avec les responsables, les bureaux d'enregistrement, une charte pour qu'ils assument leurs responsabilités en partant du principe que le GNSO pourra adopter hein, donc cette résolution et on va donner donc au bureau d'enregistrement davantage d'informations sur cet accord. En ce qui concerne le processus, il y a une série de participants et avec les membres d'ALAC y compris, parce que dans cette lettre, dans cette charte, on parle des responsabilités et des droits existants. Et il y a un projet qui provient de la communauté ALAC, qui vise à créer une charte potentielle dans laquelle on établira les responsabilités futures. Actuellement, nous travaillons donc dans ce domaine, sur ce projet. Je pense que ce groupe va augmenter lorsqu'on va publier ce document et qu'on va le présenter pour les commentaires publics. On va indiquer les intérêts généraux. Je pense que ce sera une bonne idée. On est en train d'essayer de le faire. Lorsque la communauté d'Alarge et la communauté commerciale pourra se réunir et pourra travailler donc sur ces améliorations, sur ces amendements de ce texte, hein, le rapport parle de points à considérer dans l'amendement du RAA qui sera traité au cours de l'année prochaine. On a un processus de requête, de demande de la part des membres de la communauté. On nous demande d'inclure certains membres dans le RAA. On a reçu beaucoup de contributions de membres de la communauté d'Atlarge, de la communauté en général. On a eu un représentant de la communauté de respect d'application de la loi qui a proposé certains changements et des gens qui appartiennent au personnel d'ICANN qui nous ont aidés à donc créer une perspective dans cet accord de RAA. Donc, nous avons essayé d'établir des priorités, élevées et moyennes et basses hein, dans ces différents sujets. Et ici, vous voyez le résultat final du groupe de travail pour les amendements du RAA à considérer par le GNSO. J'espère que vous allez pouvoir le lire, c'est sur l'écran. Il y a beaucoup de choses qui ont été demandées par la communauté au cours de ces deux dernières années. Ici, on aborde des points comme par exemple les interdictions concernant le cybersquatting et des points concernant les conduites malveillantes et des points concernant les différentes publications. Cela va être diffusé, bien sûr, mais je dirais que ce sont les principaux points qui ont été considérés, les points qui ont été considérés comme les plus prioritaires. Et ici, vous voyez une autre liste de 12 autres points dans lesquels figurent. Céleste, tu peux revenir en arrière. Cette liste, comme je vous le disais, est une liste de priorités. Ça ne veut pas dire que le 12e point soit moins important que le premier point, mais il fallait donc organiser les points prioritaires d'une certaine façon. La catégorie suivante des sujets pour les amendements, hein, des priorités moyennes ici maintenant, un peu moins important que les premières priorités. Vous pouvez donc jeter un petit coup d'œil là-dessus. Ce sont donc tous les points d'amendement, hein, concernant donc des précisions hein, à ajouter, des informations à ajouter. Et vous voyez que ce sont donc des questions qui sont moyennement prioritaires, mais qui sont importantes hein, et que le groupe donc dont le groupe doit tenir compte. Hein. L'étape suivante, ce sera d'identifier et la façon d'aborder ces sujets. Ensuite, on passe à l'étape suivante qui sera la création d'un nouveau RAA. Le rapport se base sur différentes caractéristiques. Il y a eu une opposition concernant certains points clés. On est en train maintenant de négocier. L'équipe de rédaction de la version préliminaire a établi un système de soutien avec des observateurs lors des négociations. Il y a eu aussi une certaine opposition de la communauté des bureaux d'enregistrement qui disent que les tiers ne doivent pas participer aux négociations. Cela implique et qu'il faudra avoir un processus avec des rapports réguliers. Ces négociations donc, vont se limiter à la communauté ICANN et au registre. Il y a eu des membres de la, d'une sous-équipe qui pensaient qu'il devrait y avoir un rôle supérieur, qu'on devait donner un rôle supérieur aux tiers, que ces tiers devaient participer aux négociations. Ça a été donc un point important dans le groupe de travail et qui a donné lieu à des controverses importantes. Alors, nous en sommes ici actuellement. Dans le conseil du GNSO, il y a eu une motion. On va donc voter pour cette motion mercredi pour adopter ce processus qui est une proposition qui admet les observateurs et qui encourage l'adoption et l'évaluation des priorités de premier et de deuxième niveau et qui permet aussi d'adopter cette charte de droits et de responsabilités. On va continuer à travailler dans ce domaine, sur cette charte, et on va publier cette information qui est destinée aux registraires et aux registrants. Donc, vous avez ici le schéma et qui sera donc discuté mercredi. Voilà, c'était le rapport que je devais faire. Maintenant, je suis à votre disposition si vous avez des questions.
Merci, Margie. Je deviens Cheryl virtuelle, mais j'ai une question. Une question en premier. Merci, Margie, pour tout le travail que vous avez fait au cours de ce processus. J'ai un commentaire, une question. Le commentaire, c'est que s'il y a de manière plus confuse pour que ICANN procède, je ne peux pas imaginer. Le processus du groupe de travail était difficile et je n'essaie pas de donner la responsabilité à quiconque, mais il y a beaucoup de travail que la partie Atlarde a dû faire. C'était l'ancienne plainte de la sténographie. Tout semblait arrangé à l'avance. Donc, ce commentaire débouche sur ma question. Et donc, est-ce qu'il y a une manière selon laquelle ICANN peut aider à encadrer ou au moins à publier une navette entre Atlarge et la communauté commerciale et les membres du NCSG qui pourraient être intéressés à cela pour que la charte des aspirations fonctionne mieux, parce qu'il y a quelques points vagues pour le moment. Davantage d'efforts et de réflexion doit avoir lieu pour que la prochaine phase soit réussie. Donc la question est la suivante. Comment est-ce qu'on peut avoir un encadrement organisationnel de ICANN pour le faire? J'imagine que la manière la plus simple de procéder, c'est d'avoir une requête au conseil GNSO pour explorer cela. Cela ne fait pas partie de la requête actuelle que j'ai affichée sur le site web des sections de fin de semaine avec le conseil GNSO. Ils ne vont pas vous voter là-dessus. Mercredi, il y a beaucoup de débats et de discussions qui doivent avoir lieu. Et avec la progression du processus, bien que Alain, vous n'êtes pas un membre avec droit de vote, vous pouvez lancer la question pour savoir si la charte des aspirations devrait faire partie des prochaines étapes. Je ne peux pas soumettre de requête formelle et non plus. Je peux soulever l'objection et si ce serait utile s'il y avait déjà d'autres membres du conseil qui voudraient bien défendre et soumettre la requête. Je vais parler à Beau à part. Donc. Et Beau, pour vous rappeler, quand on travaillait dans le groupe ensemble, mais INT a été intéressé par cette discussion, IPC est un grand encadrement, une assistance de commerciale pour que vous vous plongiez dans cette charte. Oui, absolument. Je suis heureux de l'entendre également. Il y a beaucoup de formulations dans le plan stratégique d'ICANN au sujet des droits des titulaires. Donc, il faut que la documentation vienne des utilisateurs et de la communauté commerciale plutôt qu'ailleurs serait vraiment très, très bien. Je vais redonner le micro à Cheryl. Plutôt que de vous introduire, allez-y, Alan. Deux points qui sont liés les uns aux autres. Pendant la discussion sur la manière dont les utilisateurs devraient être impliqués dans le processus de négociation, est-ce que quelqu'un a soulevé la question selon laquelle, oui, les négociations étaient une partie, une négociation en deux parties entre les registrars et ICANN, mais les ICANN peut dire qui sont les membres qui vont faire la négociation. Il n'y a pas d'équipe. Personne ne peut dire que ce soit d'être des employés d'ICANN. Il peut y avoir des avocats sous contrat. Si ICANN devait nommer un représentant du GNSO, des représentants de at-large, dans le cadre de leur équipe de négociation, les registrars peuvent ne pas l'aimer, mais je ne vois pas pourquoi c'est un sujet épineux à débattre. ICANN peut tout simplement organiser, former l'équipe de négociation qu'ils veulent. Est-ce que j'ai mal compris? J'ai pas vu ce débat auparavant. Je ne sais pas, on n'a pas exploré la question, mais j'aimerais exprimer une des préoccupations soulevées par le registre, c'est qu'ils veulent pouvoir faire des discussions franches, pas dans le domaine public, parce que ces questions affectent leur modèle commercial, mais c'est quelque chose qu'il faudra explorer. Je ne sais pas exactement quelle sera notre position là-dessus. Je crois que c'est pour ça que les avocats ont créé des accords de confidentialité. Il y a des manières de contourner cela. Peut-être que c'est pas ce qu'ils préféreraient, mais il s'agit d'une négociation bilatérale. Je ne pense pas qu'ICANN peut décider quels registrars seront présents et qu'ils peuvent décider des gens. Et les utilisateurs ne peuvent pas unilatéralement prendre une position, prendre des décisions et que les... Ils ne peuvent pas exiger et at-large, je ne sais pas, vois pas pourquoi le GNN soit at-large ou qui participe au processus. Je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas faire partie de cette équipe de négociation. Cependant, nous avons eu une période difficile pour faire passer le RRA de 2008, qui aurait dû être de celui de 2009, parce que la terminologie, les termes, dit que sera négocié sans la participation des GNSO, et les GNSO doivent l'accepter, donner leur aval pour que cela devienne vrai. Et ils se sont offusqués. Et je comprends. Mais on n'a pas modifié le processus, donc on a le même processus encore. Et maintenant, on essaie de le peaufiner. Donc, est-ce qu'il y a une tentative de modifier le processus à l'avenir afin de trouver de passer aux politiques basées sur le consensus pour les registres et pas les règlements que nous avions en 2001 ou 1999. Cela ne modifie pas comment les politiques qui ne sont pas basées sur le consensus soient passées, mais ça c'est privé. Mais du point de vue du consensus, cela pourrait être normalisé avec le reste des pratiques d'ICANN et ce serait bien si cela découlait, était généré de cette phase. J'aimerais clarifier des commentaires que vous avez faits. Je ne crois pas qu'on a vu le contrat de la même façon que vous. Le contrat a permet au conseil d'approuver le contrat. Et il ne parle pas de qui doit faire partie de l'équipe de négociation, mais c'est quelque chose qu'il faudrait détailler. pour savoir si le processus d'amendement pourrait être modifié. Autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que par le passé, le conseil GNSO a participé aux problèmes de contrat tels qu'il y avait un PDP en 2006 sur l'accord des registres. Donc, il y a des précédents de participation du conseil GNSO dans le processus, la forme d'amendement et de fourniture de conseils et de directives. Le PS6O était un avis au conseil et pas une de négociation avec les registres et les registraires. Donc, c'est différent quand même. James, et ensuite nous avons Danny qui a posé une question. Donc, Jason et Danny, merci. Cela ne se rapporte pas directement à la présentation actuelle, mais c'est un thème se rapportant à la discussion peut-être et pour que la présidente soit au courant. Il y a quelque chose. Parfois, l'interprète ne comprend pas l'intervenant. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on devrait analyser pour voir uniformiser ou harmoniser certains de ces principes RRA à travers tous les CCTLD? Malheureusement, nous avons un rôle très différent en ce qui concerne les CCTLD et parce que nous avons des contrats directs avec les registres GTLD et ces politiques, ces procédures de politique sont ainsi mises en œuvre. On a une différence. Les CCTLD ont davantage de flexibilité pour faire ce qu'elles veulent. Je ne vois pas de possibilité où on pourrait imposer aux CCTLD ce qu'ils peuvent faire en ce qui concerne leur registre. Je comprends l'historique, les règles, mais je veux tout simplement dire que quand je dis nous, ICANN peut-être ne peut pas contrôler ce que font les CCTLD. Ils sont des registres, mais peut-être est-ce qu'on ne peut pas faire des recommandations aux registres CCTLD? Ce serait quelque chose qu'on devrait encourager à travers CCN. Donc, ils ont leur propre processus PDP. Je ne sais pas très bien comment ils le font, mais il me semble que cela pourrait être un bon thème. Et James, il y a deux points ici. Lorsque nous avons terminé avec Margie, on n'a pas encore terminé avec Margie, mais on a des problèmes de compliance, peut-être que de conformité. On peut réanalyser ceci et nous avons une opportunité de liaison avec le CCNSO si vous voulez avoir l'encadrement de ALAC pour poser cette question au CCNSO. Ce serait une manière de progresser. Bien. Dani, est-ce qu'on doit lire sa question pour l'enregistrement? Donc, Digo, il est sur Digo, donc on ne peut pas l'entendre. Si quelqu'un voit mieux, est-ce que vous pouvez lire la question de Dani? Ce serait bien, parce qu'il participe à distance. Dani pose la question. Est-ce que c'est vrai si ces amendements ne sont pas acceptés comme politique de consensus, ils vont être 45 ans à l'avenir, ils seront mis en œuvre 45 ans à l'avenir, au cours du prochain cycle? C'est la manière dont le RAA est écrit pour le moment. Si les nouvelles formes sont approuvées par ICANN et ça implique le processus avec le conseil GNSO, si cette nouvelle forme est mise en œuvre au moment où les registrars renouvellent leur contrat en 2009, ICANN a conçu un programme d'encouragement pour que davantage de registrars entrent sur le nouveau contrat. Et je crois que c'est un nombre important de registrants maintenant qui sont couverts par le nouveau contrat. Donc, c'est vrai que cela rentre dans le processus de correction et d'amendement et cela peut prendre plusieurs années avant qu'on y arrive, bien que les encouragements puissent accélérer le nombre de registrants qui sont couverts par le nouveau contrat. Est-ce que Daniel a une question de suivi? je n'arrive pas à lire la salle assez parce que c'est écrit très petit. Non, pas encore. Bien, je vais aller à Alan. J'ai une question de suivi. Il y a encore beaucoup, mais pas une majorité de registres qui n'ont pas encore signé la nouvelle convention après 6 mois ou 9 mois. Donc, c'est un problème. Il y a des éléments de ARE qui sont des politiques de consensus et ils sont adoptés comme politiques de consensus. Ils entrent en vigueur tout de suite, mais ils doivent passer par le processus PDP. Mais ça prend près de 5 ans. C'est vrai. Eric, allez-y. Merci, Cheryl. Je suis Eric Brenner-Williams. Bonjour, Margie. Je fais le suivi par rapport aux échanges que vous avez eus sur les personnes nommées dans les parties de négociation entre ICANN et les registres en particulier. Donc, je vais vous lire quelque chose que j'ai écrit. Nous avons quelques intérêts à politique pour savoir si les négociations de contrat, c'est entre ICANN et l'un des 100 registrars ou entre ICANN et les plus de 600 registrars coquilles, fantômes. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt public ou uniquement un intérêt de marché dans le comportement des registrars qui mènent les négociations actuellement? Donc, j'imagine qu'il y a une justification pour demander que si les négociations touchent à l'intérêt public ou non. Merci. Mardi, c'est pas quelque chose que vous pouvez répondre, mais notez-le et revenez avec une réponse. Eric, si je peux dire ce qui suit, nous sommes dans le processus pour savoir quelles seront les prochaines étapes. Est-ce que vous suggérez que nous devrions fixer des règles sur la manière dont les registrars participent de leur côté des négociations? Je ne comprends pas bien la question. Merci, Margie. La suggestion qu'Alan a faite, c'est qu'il y a un intérêt public à savoir si les négociations entre ICANN et les registrars et les registrars particuliers, et que cet intérêt public peut être abordé par, peut être représenté par des gens qui ne sont pas des employés de ICANN ou bien qui agissent au nom de ICANN ou des gens liés par des contrats confidentialité et qui ont des obligations fiduciaires et de confidentialité en faisant partie aux négociations de contrats. Donc j'imagine que le problème de la capacité des personnes qui ne sont pas des employés d'ICANN ou de conseillers externes est hypothétique pour le moment. On n'a pas besoin de savoir s'il y a, on doit besoin de demander s'il y a un intérêt public au cours des négociations ou dans quel degré il existe. Donc, s'il y a un grand registrat avec 20% du marché qui offre des enregistrements généraux aux utilisateurs et qui a, et pour choisir un des 130 et créer des crédentiels des entreprises de registres agréés, cela fait partie d'un système d'acquisition de drop pool et il n'y a pas d'existence de public facing. Donc, je fais référence à la section 3 de la RRA. L'intérêt public est évident. Le public intérêt dans le second cas n'est pas évident. Mais ils sont bien distincts. Donc, s'il y a un intérêt public dans le rapport entre ICANN et les registrars, je pense qu'on est d'accord qu'en général, il existe. Et si cet intérêt existe entre ICANN et les groupes de registrars ou des registrars particuliers, donc le problème des partis qui représentent le public, l'intérêt public et ICANN, donc c'est une question valable. Donc je ne veux pas vraiment parler des règles s'il y a des registrars, mais c'est savoir si la capacité des employés de non qui ne sont pas d'Aiken ou des conseillers externes, si cette question va dans le sens de la question de la commentaire d'Aiken. Donc, en fait, est-ce que l'intérêt public, comment cet intérêt public entre dans le processus et le contrat n'est pas clair? Donc, c'est pourquoi nous avons le débat dans le conseil GNSO, c'est pourquoi nous avons la divergence d'opinion dans le groupe de travail. Mais je comprends votre argument. Et même dans le contrat, avec la mise en œuvre du conseil qui doit approuver la nouvelle formulation. Donc, c'est la communauté d'intérêt doit avoir la parole et savoir comment cette communauté, cet intérêt public entre deux. Je ne comprends pas tout à fait votre question, mais je peux vous donner cette réponse. Je peux vous donner un cas extrême. Il y a des registraires qui n'ont pas de fonction de registraire au cours de la durée de contrat. Ce sont des registraires pour des intérêts de grandes entreprises et ils ne sont pas disponibles au public. Et beaucoup de registraires sont dans cette catégorie, donc il n'y a pas de public intérêt. Et le contrat, et c'est pour un objectif de grande entreprise, et il n'y a pas de fonction de registraire, donc il n'y a pas d'intérêt public dans ce cas-là. D'accord. Beau. J'aimerais réitérer qu'il s'agirait d'une bonne mesure pour d'autres représentants du public. Deux points que j'aimerais soumettre. Il y a un intérêt public dans le processus de négociation entre ICANN et les registraires, mais je pense que nous devons faire un meilleur travail à créer l'intérêt public. Je crois que le public doit savoir ce qu'il doit les préoccuper, sinon le continu existe dans un vide. Deuxièmement, j'aimerais réitérer ce qu'Alan et Eric ont dit, c'est la présence est importante de quelqu'un qui a des compétences juridiques ou de négociation du point de vue pour les utilisateurs. J'étais coprésident d'une des équipes de travail et mon coprésident est Michel Neylan, Michaela Neylan. Il est vraiment très bien, mais c'est un registrat. Je ne suis pas avocat, donc le public, l'intérêt public est représenté par quelqu'un qui ne possède pas la capacité juridique pour traiter des comptes avec les contrats. Donc, nous devrions avoir davantage de compétences professionnelles dans ce contexte de négociations avec groupes de travail. Je pense que cela doit être noté tel quel. Je pense qu'autre chose que j'aimerais dire, c'est que c'est une bonne raison pour laquelle nous avons besoin davantage et davantage d'entendre davantage de son cloche. Pour le moment, nous travaillons nos communautés qui manquent de ressources à large, une communauté à large. On a besoin des bonnes compétences pour cela. Et je dis ça intentionnellement parce que je vois beaucoup de gens très compétents et je pense qu'il y a un pool de talents qui pourrait être participé à ces groupes, ces activités de groupes de travail. Donc, une minute avant de vous laisser partir. Pas encore. Pas tout de suite. Mais il y a une réponse de Dani, donc j'aimerais m'assurer que cela est lu et vous allez revenir participer aux prochaines discussions. Le nouveau contrat est un programme d'adhésion, c'est-à-dire que les registres doivent respecter toute une série de réglementations. Alors, pourquoi ne pouvons-nous pas nous traiter le RAA de la même façon comme un contrat d'adhésion qui éliminerait toutes les négociations avec registre? C'est la contribution de Dani. Je ne pense pas que je pourrais être d'accord qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion. L'équipe juridique serait vraiment offusquée, mais nous avons deux situations différentes. Avec le nouveau programme GTLD, nous avons une tabula rasa et vous pouvez arranger ce qui était problématique auparavant, mais avec le nouveau la nouvelle convention, nous avons des restrictions de ce qui est dans le contrat. Donc il y a deux situations très différentes. Si on commençait depuis le départ, je pense que nous aurions une convention très différente, mais cela montre beaucoup de l'historique, l'évolution depuis le début de ICANN. Donc, on a deux situations à traiter ici. Je crois que j'ai répondu à votre question. Oui, je ne sais pas si ça répond, mais en tout cas, c'est une réponse que vous avez apportée. Nous sommes heureux de vous avoir ici. On vous rend la vie difficile, mais on apprécie votre assurance. Merci, merci beaucoup, Margie. Et prochaine victime. Allez, si on ne peut pas s'amuser, on ne devrait pas le faire, voyons. Pam également va être ici pour répondre à certaines questions. Et voici quelque chose qui nous tient à cœur. Maintenant, on passe au problème de conformité. Sans la conformité, on sent que tout est vraiment effrayant. Et c'est grâce à la conformité que certaines des mesures et des paramètres dont nous disposons pour rectifier des disputes sont évidentes pour nous pour résoudre les problèmes du côté de l'utilisateur. Stacy et Pam, Stacy à droite et Pam à gauche. Stacy va faire la présentation, n'est-ce pas? Et donc, c'est à vous. Bonjour et membre de ELAC, je m'appelle Stacy Burnett, je suis directrice de la conformité contractuelle et je ne sais pas si vous avez rencontré Pam Little, c'est notre directeur de la région Asie-Pacifique et elle est vraiment un ajout précieux à notre équipe jusqu'à présent. Elle fait partie de notre équipe depuis un an. Et elle a eu beaucoup de succès à résoudre des problèmes de conformité complexes avec nos registres asiatiques. Elle est multilingue, polyglotte. Et c'est vraiment un ajout vraiment important d'avoir quelqu'un qui puisse communiquer avec nos registres dans leur langue maternelle. Donc, j'espère que vous pourrez parler avec Pam par la suite. Donc, sans tarder, je vais commencer la présentation. Je n'étais pas sûre de niveau de connaissance de ce groupe au sujet de notre programme de conformité contractuelle. Donc, j'ai inclus des informations d'ordre général au sujet du programme. Et ensuite, je vais partager avec vous des mesures, des statistiques de mise en application. Et je vais conclure en vous indiquant nos plans sur nos problèmes de dotation de personnel et nous essayons d'y remédier. Je vais vous dire ce que nous faisons pour y remédier.
Donc, je vais commencer avec une information de base sur le programme. Nous avons des relations avec plus de 960 registraires accrédités par ICANN, 17 registres, ce qui veut dire que régulièrement, nous traitons avec les registraires lorsqu'ils ne répondent pas à certaines réglementations. En général, cela implique qu'il y a des relations, parce que si on entre en contact avec l'organisation lorsqu'il y a des problèmes, il y a une relation qui se crée entre nous. Et donc, notre première tentative est toujours de résoudre les problèmes de manière un peu informelle, à travers un coup de fil. Et si ça ne marche pas, on prend d'autres mesures. Nous sommes aussi responsables des contrats d'ICANN et de leur respect. Il y a un système de plaintes pour non-respect de ces contrats. Et là, on a donc un système qui reçoit des plaintes portées par ou à cause de manque d'exactitude par rapport à who is. Et puis, on s'occupe donc du respect de certaines règles du règlement. On développe un processus pour donc s'occuper de ces questions de respect du règlement. Il y a différents processus qui sont en jeu ici. Et pour qu'on ne nous accuse pas de traiter les parties de façon injuste, donc on travaille de cette façon. Je vais avancer et continuer à vous montrer les dispositions du RAA. Des dispositions qui éveillent parfois certaines controverses dans la communauté. Nos autorités contractuelles, parfois on pense que ICANN est une autorité qui n'a pas de régulation, qui n'a pas de politique. Et on pense que les résolutions figurent dans le contrat, mais qu'on ne peut pas les faire appliquer. Donc, on va voir des questions de contenu. On va tenir compte de ces questions de contenu, justement. Et je dirais à nouveau que on peut mettre en œuvre les dispositions qui figurent dans les accords d'accréditation des registraires. On va aussi parler des dispositions concernant les erreurs qui figurent dans Who Is. Il faut que les registraires fassent des petites enquêtes des fois. Et ces registraires, il y a un malentendu au niveau de la communauté parce que les registraires doivent faire des enquêtes concernant les erreurs qui figurent dans Who Is. On parlera aussi de l'annulation d'un nom de domaine lorsque le registraire ne peut pas vérifier les informations de Who Is. Il y a différentes options dans ce domaine. Et puis, on va permettre que Who Is annule un nom de domaine lorsque le registrant fournit des informations qui ne sont pas adéquates dans Who Is. Un autre point dont on parle souvent concerne le escrow, le dépôt RAA, et donc les prérequis qui en découlent. Ici, on dit que les données d'enregistrement doivent être précises et doivent être exactes. Si ce n'est pas le cas, il y a un processus pour acquérir l'information pour éviter que les registraires ne soient affectés. Il faudrait qu'il y ait une résolution de différends ou de litiges adéquates et on permet que ICANN poursuive ou annule un accord lorsqu'un principe est violé. Donc, si un principe est violé, on annule le contrat, on clôt, le contrat est terminé, disons, si le registraire viole une clause du contrat. Le contrat est annulé, donc. La diapositive suivante. Donc ici, vous avez une idée du nombre de clôtures de contrats ou de contrats qui ont été annulés, qui ont été terminés, disons. Et vous voyez où nous en sommes actuellement en 2010. Il y a eu donc une dizaine d'annulations de contrats cette année. Nous avons commencé à enregistrer le nombre de notifications d'accomplissement envoyées au registraire et ces notes identifient une violation de contrat dans la plupart des cas. Il peut aussi y avoir d'autres types de notes dans lesquelles on a des informations sur la violation d'un contrat. Et on va demander au registraire de demander des informations pour voir s'il existe vraiment une violation du contrat. Entre août et novembre, nous avons envoyé plus de 1500 notifications. Il y a eu de nombreuses discussions sur cette question dans la réunion d'ICANN, à savoir si donc les résolutions sont respectées. De notre point de vue, on est en train de mettre en œuvre des mesures pour appliquer vraiment les résolutions de l'accord. On a eu différentes expériences au cours de cette dernière année et demie. Et on voit que les registraires vraiment corrigent les problèmes. Donc, ces notifications permettent de résoudre des problèmes, vraiment. Ce que je veux vous montrer aussi, c'est des informations sur les audits qui sont réalisés actuellement. Nous venons de mettre en œuvre une politique de transfert d'interregistraires et il y a des informations importantes. Nous avons reçu des plaintes de la part de la communauté concernant les transferts et des considérations sur la politique et sur les changements et qui sont en cours dans les politiques de transfert. Donc, c'est le moment de mettre en œuvre un audit et de déterminer s'il y a eu un degré élevé de respect. Hein? Je vais partager avec vous un petit peu la méthodologie que nous avons utilisée pour réaliser cet audit. Je dirais que nous avons sélectionné 4 groupes de registraires pour analyser leur processus, leur pratique et pour voir s'ils respectent la politique ou pas. Ces 4 groupes sont les groupes qui demandent le plus, qui ont eu le plus de prérequis de transfert ou qui ont fait le plus de transfert ou ont essayé de faire le plus de transfert. Et ces prérequis ont eu lieu au cours d'un mois en particulier, à partir d'un certain mois. Et après, on a tenu compte, donc, du respect, de l'accomplissement qu'ils ont eu au cours d'un mois en particulier. Et au cours de ces 5 derniers mois, l'application de ces... Est-ce que quelqu'un a une question? Nous considérons donc... Nous avons vu comment ils ont répondu aux plaintes qu'il y avait de la part des consommateurs et comment ils répondaient aux politiques. Donc, pour éviter cette activité, parce que dans beaucoup, il y avait de plus en plus de plaintes qui étaient présentées. Donc, on a cherché le portfolio moyen ou le portefeuille moyen d'enregistrement. On a créé un plan. On a donc essayé de trouver les personnes qui ne respectaient pas ces mesures de portefeuille. Et on a eu donc un modèle cohérent de registraire. On espère avoir maintenant des discussions avec le groupe des parties prenantes et pouvoir partager avec eux les résultats de notre audit. On veut aussi voir ce qu'il faut améliorer dans le domaine de la contribution de la communauté, établir davantage de communication en temps réel, au lieu d'attendre davantage de temps et de voir qu'est-ce qu'on fait. Voilà, ce serait plus ou moins ce que je peux vous dire. S'il y a des questions, si vous voulez, faites-les-moi, comme ça j'y répondrai. Un autre audit que nous sommes en train de réaliser est celui du port 43 de Whois. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, revenir à la diapo précédente? Nous avons développé un outil qui se combine avec les autres outils que nous utilisons. Nous avons fait cela pour s'assurer que le public ait un accès aux informations de Whois, et cela est cohérent avec l'engagement de ICANN pour garantir l'exactitude de Whois, la plus grande exactitude possible de Whois. Et en se basant donc sur cet outil que nous utilisons pour contrôler le port 43 de Whois. Nous avons vu qu'il y avait eu des modifications. Nous avons eu 6 questions concernant l'accomplissement basées sur des informations que nous avons prises auprès de ces registraires qui ne donnaient pas un accès au port 43. Avant de leur envoyer ces notifications d'accomplissement, 2 registraires auxquels nous avions envoyé ces notifications n'ont pas répondu. Donc, nous allons continuer à utiliser cet outil et je suppose qu'une fois que les registraires auront compris que l'on contrôle activement le port 43 de Whois, ils vont augmenter le respect des normes pour éviter les problèmes. Je vous ai déjà parlé Je vous ai déjà dit qu'un des systèmes de respect de la norme que nous avons est le rapport, le système de reporting de who is, qui permet que le public dénonce le manque d'exactitude ou le manque de précision de who is, de telle façon que le public peut découvrir, comprendre ce qui s'est passé lorsqu'ils font une plainte pour non-exactitude de who is. Et ces rapports, ces reportings, ces rapports parfois sont annulés. Lorsque c'est le cas, ce n'est pas un rapport dans lequel nous devons intervenir. Ce que nous faisons, nous envoyons une notification automatique à la personne qui a fait cette notification et lui dire que sa notification a été ou ce rapport a été annulé. On peut comme ça envoyer un rapport, on peut savoir si vraiment il y a quelque chose qui se passe et on se rend compte que cela est très important. Parce que c'est important de savoir ce qui se passe dans le système concernant les réclamations, les plaintes. Hein. Un autre point ici concerne les registraires, parce que ça permet à ICANN de savoir comment répondre au manque d'exactitude de who is. Donc, 15 jours après l'envoi d'un rapport, on envoie un email dans lequel on demande des informations concernant la plainte qui a été présentée. À ce moment-là, il faut vérifier. Le registraire va vérifier l'information de contact, le nom de domaine. Et on voit si le nom de domaine a été refusé. On voit s'il y a eu une actualisation du nom de domaine. On voit s'il faut davantage de temps, si on a besoin de plus de temps. Donc, lorsqu'on reçoit cette information, on la partage avec la personne qui a porté plainte ou qui a présenté la plainte pour manque d'exactitude de who is. Et nous pensons que les personnes qui utilisent ce système vont obtenir ainsi des informations utiles pour pouvoir ensuite déterminer s'il faut mettre en place un changement. Donc, ces gens vont recevoir un email qui vont leur permettre de mieux comprendre l'évolution de leur plainte et où est-ce qu'elle en est. Un autre système que nous avons mis en place, c'est l'émission pour les registraires de notifications automatiques. Nous ne l'avons pas encore fait, mais c'est un système qui va être mis en place. Ce qui est intéressant, c'est que c'est en rapport avec notre processus de respect des normes. Nous essayons de travailler de manière un peu informelle, mais on va donc envoyer des notifications au registraire ou par mail ou par téléphone. Et donc, avec cette notification de 45 jours, on leur donne un peu de temps pour répondre. S'ils ne répondent pas, on leur envoie une notification pour non-respect des normes. Voilà, ce sont les trois choses que nous avons mis en place. Et comme tous les systèmes, on espère pouvoir faire d'autres améliorations de ce processus dans le futur. Hein. Il nous faut continuer à travailler. Et la dernière chose que je voulais vous dire, je voulais vous parler des actualisations sur notre organisation. Nous avons un directeur, une personne qui s'occupe du respect de la norme et des questions liées à who is et un auditeur principal. Nous recevons des demandes et nous sommes en train de revoir, d'analyser un petit peu les lettres des personnes qui se des candidats, hein, et nous essayons rapidement donc de nommer ces personnes à ces postes pour que dans les mois à venir, elles soient déjà aptes à commencer à assumer leurs fonctions. Voilà, et j'ai fini ma présentation. Merci Stacy. J'ai donc une liste de personnes qui veulent intervenir et j'ai des questions dans la salle de chat aussi. Alors, d'abord Alan, ensuite Bob et ensuite Evan, vous avez la parole. Je vois que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Oui, la question du respect intéresse beaucoup de gens. Il me semble que vous nous aidez vraiment à établir, à faire un bon travail, à faire du bon travail. En ce qui concerne la première question, combien de bureaux de respect de la norme vous avez et vous avez besoin de davantage de personnel? Est-ce qu'il y a une planification du personnel? Oui, il y a davantage de plans pour mettre, pour nommer davantage de personnes. On a les GTLD, on a besoin de davantage de ressources pour pouvoir les mettre en œuvre. Nous allons passer à une autre question. Alain. Deux commentaires. Il y a eu une déclaration et concernant les RAA, auparavant, la seule option pour ICANN, c'était de résilier le contrat. Je crois que c'est un élément important. Et maintenant, on a une autre option. Au lieu d'utiliser l'option qui s'appelle l'option nucléaire, qui peut être une bonne option pour que les registraires trouvent ou résolvent leurs problèmes de moindre importance. Je ne sais pas si c'est une option que l'on peut utiliser de manière légale, mais je pense qu'elle pourrait être utile dans le nouveau RAA. Maintenant, je ne sais pas, je ne vois pas pourquoi ICANN ne l'utilise pas. Hein, c'est-à-dire, est-ce qu'on va utiliser, est-ce qu'on va envisager cette possibilité? Mais oui, on l'utilise, comme on peut le voir d'après les statistiques que je vous ai montrées, on utilise cet outil et on a eu de bons résultats. Je ne parle pas vraiment de cette année. En général, on utilise cet outil pour des questions financières. Le fait que l'on ne puisse pas l'utiliser pour des questions de moindre importance, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Hein. Je vais vous raconter une histoire. J'ai vécu pendant longtemps à Montréal. Et dans les restaurants, des fois, il y avait des cafards, non? Alors, lorsque l'on diffusait ce genre de choses, on savait que c'était dangereux pour le restaurant, mettons, parce que il allait perdre toute sa clientèle. Hein. Donc, on lui en parlait et on lui demandait de résoudre le problème sans en parler à tout le monde. On pourrait faire la même chose pour les registraires. Donc, voir quels sont les problèmes qu'ils ont, comment résoudre ces problèmes rapidement et ensuite dire à ces registraires comment on les a découvert. Hein. Donc, moi, je propose au public de rentrer dans notre page de respect, de conformité aux normes et de pour qu'ils sachent un petit peu tout ce qui concerne les violations du contrat, pour qu'ils voient les notifications que nous faisons et pour qu'ils sachent si les registraires ont eu des, quels sont les registraires qui ont eu des problèmes dans le passé et comme ça éviter certains problèmes. J'ai vu cette page, mais si je prends l'exemple du registraire XXX, triple X, le défi que nous devons relever, c'est, voyons, je vais prendre ce registraire XXX, je vais voir comment... Information
about a... Vous pouvez faire une recherche Google et voir comment vous pouvez faire faire passer à la phase suivante cette requête, mais ça doit être quelque chose qui se rapporte à la quantité de noms de domaine. Je pense que c'est quelque chose que nous pouvons tenir compte. C'est comment explorer cela. C'est une suggestion. Stacy a donner une réponse, mais est-ce que tout le monde, comme vous le savez tous, c'est un consensus, un forum basé sur le consensus. Donc, c'est une perspective, il y en a une autre, et je comprends très bien la position d'Alain et de Karen, mais on doit également tenir compte des autres perspectives et d'intérêts d'autres groupes, mais si vous pensez que c'est la manière à suivre, on peut encourager davantage de personnes à parler de ces mécanismes et faire une initiative communautaire. Pour le moment, nos processus nous orienteraient vers la manière à résoudre des disputes en premier. Si vous êtes, je suis sûre que vous voudriez avoir cette opportunité de, plutôt que de d'interrompre un contrat. On ne peut pas le faire tout de suite à moins que nous ayons le droit de le faire. Pour ne... Donc, il y a des circonstances très limitées et nous devons permettre aux 15 jours ouvrables pour registrer pour agir. Donc, c'est une... En théorie, ça, on a l'impression que c'est bien, mais on doit voir comment le mettre en œuvre. Donc, il faut que ce soit une initiative communautaire pour avoir davantage de support, de soutien pour cela. C'est une technique qu'on utilise à travers le monde et avec beaucoup de succès. Et parfois, les gens... Vous seriez surpris. Vous pouvez aller à Amazon.com et en disant que Amazon est terrible. Jamais je n'irai m'occuper... Je ne traiterai avec Amazon, mais... Je comprends, mais cela aiderait vraiment. Le mécanisme devrait être travaillé, mais il me semble qu'un projet pour l'avenir proche, je crois que vous avez beaucoup de personnes bénévoles à vous assister. Je vais passer ensuite à la question de Dani et cette question porte sur la formulation de la version préliminaire sur les applications des registres qui semblent permettre l'agrémentation d'entreprises fantômes. Pourquoi est-ce que ICANN permet cette pratique? Dani, je pense que les critères proposés, les nouveaux critères sont affichés sur le site web d'ICANN pour un commentaire public. Et si vous pensez que c'est vraiment pas suffisant pour les critères à proposer, donc, postez votre commentaire, la manière dont les grandes entreprises structurent leur entreprise ou leur groupe de compagnie. Je ne comprends pas exactement lorsque vous parlez d'entreprises fantômes et pourquoi on ne devrait pas les autoriser à s'enregistrer. Mais l'objectif de ces nouveaux critères, c'est d'améliorer le processus de diligence due pour les nouveaux demandeurs et qu'ils soient qualifiés pour être registrar de ICANN. Mais ce processus est géré par notre liaison, notre équipe de liaison. Donc, je vous encouragerais de leur donner, de leur présenter votre opinion pour qu'ils les analysent. Merci, Pam. À vous. Monsieur, j'ai quelques commentaires et une question. D'après ce que j'entends, je suis un peu préoccupée par le fait que nous suggérions que le public en général utilise Google afin de rechercher les données ICANN sur les mauvais comportements de registrage. Il me semble que ce soit problématique pour une organisation qui soit si engagé en faveur de la transparence. Ensuite, Pam, est-ce que vous avez dit que vous ne savez pas ce qu'une entreprise fantôme? Dans ce contexte, que veut dire Dani? Dans ce contexte, il fait peut-être référence au registrat qui crée des vendeurs afin de contourner le RAA. Vous connaissez la question? Les registrats utilisent les revendeurs pour faire leur enregistrement et on reconnaît l'actuel RAA de 2009. Est-ce que le département de la conformité a fait quelque chose contre ça? Bon, passons à ce que je pense est ce qui cloche dans la salle, c'est que le département de conformité a perdu 3 de ses employés. Pourquoi David Guise a été renvoyé si ce... Je ne veux pas entrer dans quelque chose de personnel. Non, cette question n'est pas acceptable. Non, la question acceptable, c'est pourquoi est-ce que le personnel n'a pas été remplacé dans les délais. Je pense que lorsqu'une communauté pense que le département de conformité a été ordonné de ne pas appliquer les règles et que ça portait à des gens de démissionner, il n'y a eu aucune communication de l'ACN au sujet de la situation dans le département de la conformité. J'ai dû soulever la question à Kurt Pritz et d'après ce que j'ai entendu de lui, ACN, et peut-être que j'ai mal compris, mais d'après ce que j'ai compris de ce qu'il avait dit, ACN n'est même pas sûr s'il a l'autorité de mettre en œuvre, de forcer l'application de la conformité. Donc, je pense qu'on rentre dans les domaines de ressources humaines et je ne sais pas, je suis très nerveuse à poser une question directement au sujet des mécanismes de démission, de renvoi, de retien. Alors, j'aimerais reformuler. Est-ce que le département de conformité a reçu l'ordre de ICANN de faire marche arrière tout ce qui n'est pas un avis de violation de non-paiement? Non. Je voudrais traiter la première question. Peut-être que j'ai mal dit quelque chose. On avait un homme qui a dit qu'il faudrait qu'on trouve un système pour permettre au public d'obtenir des informations au sujet des registraires, des dossiers, de conformité des registraires. On a affiché sur le site web. Cependant, pour quelqu'un qui ne sait rien de ICANN, beaucoup de gens qui utilisent Internet n'ont jamais entendu parler d'ICANN. S'ils faisaient une requête Google et ils y mettaient notre nom de registraire, notre note, notre lettre s'afficherait. Je ne suggérerais pas d'avoir des informations générales sur nos registraires. Si vous aviez jamais entendu parler d'ICANN, notre lettre s'afficherait également. Je ne pensais pas que le public utiliserait le Google, mais je vous suggérais seulement qu'il y avait une manière d'obtenir, d'avoir connaissance de notre lettre, hein, si vous n'avez jamais entendu parler d'ICANN. On sait que c'est un problème problématique. Et de O9FY a essayé d'aborder ce problème. Nous avons une discussion hier avec certains registraires clés, leurs représentants au sujet des problèmes de transfert et de revente. Et notre position est demeure que les registraires sont chargés du comportement de registraire en ce qui concerne les transferts et nous avons toujours des plaintes de consommateurs au sujet des registraires qui vont à un revendeur et le revendeur ne s'occupe pas de la question, mais la politique est que le registraire essayait de dire qu'on ne savait pas la demande, donc on ne devrait pas être responsable d'une violation de la politique en ce qui concerne cette requête. Non, ça ne va pas. Vous êtes le registraire, c'est à vous que les revendeurs, que vous connaissiez vos obligations selon la politique, mais il y a de l'espace lorsque vous parlez des responsabilités de revendeurs et que on peut lancer une nouvelle ronde de correction, d'amendement. Et pour conclure mes conclusions sur les deux questions, il faut que ce soit très clair qu'un manque de communication au sujet des sentiments de la communauté sur les changements. Si ICANN laisse un vide, on peut mettre ce qu'on veut y mettre. Et si vous nous donnez des informations, on va remplir cet espace avec sagesse. Donc maintenant, j'ai une dernière question de Dani, ensuite à Evan. Et ensuite, je vous mettrai à la liste. Dani a dit que la section 5.3 du RRA demande que le registraire fournisse des détails de contact, y compris une adresse électronique valable? Est-ce que cela est vérifié? Oui, ces informations sont vérifiées. Beaucoup d'entre vous, vous êtes au courant d'un blog affiché par Gerd Brun qui disait que au moins 23 registrars n'avaient pas d'informations propriété sur le site web au sujet de leur adresse électronique et de leur adresse postale. On a vu cette liste et la première chose que j'aimerais dire, c'est que cette provision 3.16 fait partie dans le RAA de 2009. Les registrats opérant sous le 2001 RAA n'ont pas pour obligation de... Ça ne fait pas partie de leur convention, donc des 23 registrats que M. Brun a listé dans son blog, au moins 11 d'entre eux opéraient selon le RAA de 2001, ils n'avaient pas l'obligation d'afficher leur adresse postale et électronique sur le site web. Donc, nous mettons en vigueur cet accord et un groupe au sein de ICANN conseille les registrars et leur dit qu'il y a cette nouvelle obligation dans le nouveau RAA de 2009 et nous vérifions leur site web avant de finaliser le nouveau RAA ou de signer l'accord avec l'entité pour qu'ils aient cette information sur leur site web. Donc, l'autre moitié qui sont couverts par le nouveau RAA sont vérifiés. Oui, nous envoyons des avis de conformité à ces gens-là. Et je voudrais me dire ceci, l'un des registrats listé dans cet article a soumis de la documentation pour en vue de sa suspension pour la donc on poursuit les 9 autres pour leur dire qu'il semblerait qu'il y a encore des problèmes de non conformité donc de faire ce qu'il faut le nécessaire donc ensuite Beau et ensuite Evan ma question de suivi c'est pourquoi je ne peux pas renouveler l'agrémentation de INIC en ligne parce qu'ils sont pas en cas de ils violent les règles et la Chine est un havre de paix pour l'abus de nom de domaine. Lorsque j'ai plusieurs mois auparavant, je crois que j'ai raison. Ils connaissaient que notre RAA entre en vigueur le 22 octobre, mais ils ont signé, lorsqu'on a analysé, revu leur renouvellement, il n'y avait pas de problème de conformité, si vous me dites pour le moment. Il y a d'autres disputes de non-conformité, donc j'aimerais bien les analyser pour voir si c'est adéquat, mais au moment du renouvellement, au moment de notre examen, il n'y avait pas de questions de non-conformité auxquelles nous étions informés. Donc, j'ai l'impression que ça va être résolu, ce problème. Donc, sinon, on prendra des mesures. Donc, je ne vais pas passer à Evan parce que j'ai ensuite un ordre d'intervention. C'est Eric, Olivier, ensuite on va s'arrêter. Je suis sûre que Mohamed, je vous ai également. Vous êtes après Evan. Vous prendrez des questions par correspondance et avec le nouveau modèle interactif de communication, on aura donc une communication rapprochée. D'accord, Evan, j'ai 3 points. C'est pour continuer sur ce que vous avez dit. Maintenant, est-ce que je devrais comprendre que chaque fois que quelqu'un tel que M. Bruin met en avant quelque chose et que cela... Et l'étendue de ce auquel vous êtes informé et ensuite il y aura un problème de redevabilité si ICANN n'agit pas dans les délais parce que si vous êtes conscient de l'existence d'un registre qui ne respecte pas, qui viole les règles et au moment du renouvellement vous le savez qu'il ne règle pas. Donc si au moment du renouvellement s'il y a des problèmes de non-conformité, cela doit être résolu avant du renouvellement. C'est le processus. Et par rapport à ce que vous avez dit, une fois que ICANN est notifié, nous faisons une enquête. On ne fait pas confiance uniquement aux à ce qu'on nous dit ici, on détermine qu'il y a des questions de non-compliance, les registrars ont la possibilité de prendre des mesures. On n'émet pas d'avis si ils ignorent notre requête et ça va au niveau supérieur et ça peut ensuite arriver à une violation de contrat. Donc nous sommes consistants. Et je sais que bien que M. Brouin n'est pas la personne la plus adorée au sein de la communauté contractuelle, au sein de ICANN, j'aimerais vous informer ce qui suit, c'est que le problème de novembre, il y a des problèmes de croissance. On a invité pour un de ces trois postes et je crois que s'il y a que beaucoup de gens sont réticents contre au fait qu'ils seraient participaient à ICANN, mais je parlerai personnellement, je vous demanderai s'il applique pour les trois positions ouvertes de tenir compte de sa candidature. Il est très respecté, non seulement dans la communauté à large, mais dans la communauté de maintien de l'ordre également à large. On l'écoute beaucoup et même s'il y a des gens qui pensent qu'il n'est incompétent, mais le reste du monde l'aime beaucoup. Donc, tenez-en compte. Et je crois que il faut une réponse. Le second point, c'est que, étant donné ce que vous avez dit au sujet de Google, j'imagine que cela veut dire que maintenant, vous payez Google pour aider à mettre l'ordre de réponse pour que la lettre de ICANN sera affichée en premier. En général, il faut payer de l'argent à Google pour que cela augmente l'ordre de classification. Et donc vous avez un contrat avec AdWords, Google, donc, et ensuite, c'est un problème philosophique, peut-être qu'à large, on devrait répondre. Est-ce qu'il y a un problème philosophique que de nouveau intégré? Est-ce que ICANN, qui fait des négociations avec des contrats avec des registres et des registres, qui représentent 50%, qu'ils forment 50% du corps d'élaboration pour... Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a toujours embêté au sujet d'ICANN, qui est d'un côté d'un contrat, d'un rapport, et ces mêmes entités constituent 50% du processus d'élaboration politique sur la manière de faire un contrat avec eux-mêmes.
Et je pense que cela a été pris comme une recommandation. Ça n'a pas besoin de réponse. Ce que Evan vient de nous dire, non? Je suppose que tu fais une collecte de fonds pour que l'on soutienne ta motion, non? Non, je me demandais s'il y avait une enveloppe budgétaire pour consacrer à ce problème. Je crois que c'est le département du marketing qui s'occupe de cela. Mohamed, vous avez la parole. Deux questions. En premier lieu, qu'est-ce que le département a fait en 2009? Le département de conformité ou de respect des normes? Et les rejets pour non-conformité ont augmenté. Le site web de ICANN, surtout pour les registrants, on ne peut pas trouver l'information dont on a besoin. C'est un problème, ça. Hein? Donc, il faut travailler ici pour qu'on puisse trouver l'information. Stacy, tu as compris la première question? Dans votre présentation, dans la diapo numéro 7, on voyait une augmentation de 7 à 20. Et à quoi est due cette augmentation? Nous avons davantage de personnel disponible. Nous avons terminé le développement de différents processus de suivi pour non-conformité ou non-respect des normes. Et maintenant, vous pouvez demander aux membres de la communauté des registraires, parce qu'on voit qu'ils agissent sur les notifications informelles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de registraires qui ignorent nos notifications pour non-conformité. Hein. Donc, cela est pris au sérieux. Hein. On a vu beaucoup d'actions dans ce domaine en 2009. En 2010, on a agi dans ce domaine parce que on avait donc assez de personnel. Et maintenant, on fait un suivi de ce que nous avons déjà fait et nous voyons qu'il y a de plus en plus de registraires qui respectent ce processus. En ce qui concerne votre commentaire sur les informations pour les usagers finaux, on va tenir compte de votre commentaire. Vous saurez que le site web d'ICANN a été renouvelé complètement. Et nous, dans notre département hein, de conformité, dans notre page web, on va essayer de s'assurer que cette information est à la disposition des registrants et des consommateurs. C'est quelque chose que l'on fait peu à peu, mais on va essayer de le faire davantage. Hein. Merci beaucoup. J'ai envie de vous dire que vous avez engagé et la personne indiquée. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Comment allez-vous? Très bien. Alors, je pense qu'il y a une question concernant la conformité dans le secteur du domaine tasting. Il y a beaucoup de vulnérabilité ici. On n'a pas respecté la question d'intérêt public. Donc, j'aimerais voir le passif financier que cela a provoqué et pour les parties exposées, non? Parce que les actions sous-jacentes n'appartenaient pas à l'intérêt public. Je vais vous lire ce que j'ai lu à propos de la ronde ou du cycle de consultation qui a été fait en 2009. Les registrants ne peuvent pas distinguer entre les différents types de registraires. Alors, je vais lire. Hein. Il y a 529 registrères de l'ICANN aux États-Unis. On les contrôle, ils sont contrôlés donc, et il y en a 104 qui sont contrôlés par d'autres organismes. Il y a 122 accréditations par d'autres compagnies et donc on a 136 registraires indépendants. Donc on a 163, un total de 163, ce qui est un calcul plus réaliste pour les registraires des États-Unis. Donc, si on considère les États-Unis, 5 de ces 900 et quelques registraires et 500 de ces registraires, on voit que très peu d'entre eux apparaissent en public. Et si la distribution existe pour le reste des registraires au niveau mondial, il y a environ 200 registraires qui offrent un service au public. Et donc, ce que je veux dire, c'est que il y a le département de conformité ou de respect, hein, de respect des normes pourrait distinguer entre les registraires qui apparaissent en public ou qui travaillent pour l'intérêt public et ceux qui ne le font pas. Ceux qui ne travaillent pas pour l'intérêt public. Et maintenant que j'ai lu cela, je voudrais dire qu'il y a très peu de registraires en Amérique latine et en Afrique, et encore moins dans l'Afrique du Nord et en Orient, dans la partie nord de l'Orient, pour que le département puisse assister ces registraires, le département doit pouvoir le faire parce que cela concerne l'intérêt public. Nous voyons que cela se fait moins que dans le domaine de l'assistance d'autres registraires dans d'autres régions. Cela est lié à des chartes de respect des normes qui sont associés à des questions de who is pour une région où il y a seulement 6 registraires pour toute la région. Je parle d'un système ouvert. Moi, j'aimerais vous aider, mais je ne parle pas le portugais. En ce qui concerne ce registraire, nous avons un membre de l'équipe, dans le personnel de l'ICANN, qui parle le portugais. Et avant mon départ, pour Carthagène, j'ai eu une réunion d'une heure et demie avec le représentant de système ouvert Open System. Et le membre de l'équipe qui parle le portugais, c'est une femme, elle s'appelle Flavia. Elle est allée voir une personne du département technique et donc ils sont entrés en contact avec eux pour voir cette question de conformité avec eux. Donc on ne va pas annuler le contrat de ce registraire. C'est ça qui est bien dans la possibilité d'avoir des personnes qui parlent plusieurs langues parce qu'elles nous aident à résoudre certains problèmes sans devoir annuler le contrat. Donc, je pense que ça a été un bon exemple des cas où l'ICANN a utilisé ses ressources, non, pour ne pas résilier un contrat. Donc, je suis d'accord avec vous. Je pensais qu'il y avait un manque de coordination. Et pour moi, pouvoir résoudre ces problèmes, et ça suffisait pour respecter les obligations contractuelles et servir l'intérêt public. Donc, je pense que c'est une victoire. Je suis heureux d'entendre ta réponse. Ce qui est intéressant ici, c'est que la communauté m'offre différents types d'énergie. Vous me dites ici que c'est bon d'aider le registraire pour ne pas être obligé de passer à l'option nucléaire. Mais en même temps, on me dit il faut envoyer 500 notifications de résiliation de contrat. Donc, notre rôle est vraiment d'essayer d'améliorer le respect des registraires. Il y a des registraires qui ne respectent pas les normes, mais qui ne le savent pas. Donc, être dur avec eux et résilier leur contrat, ça ne sert à rien puisqu'ils ne sont pas au courant de ce qu'ils font. Je suis d'accord pour dire que l'on entend différents points de vue ici. On peut faire une différence entre les registraires qui apparaissent en public et ceux qui ne le font pas, les registraires qui respectent les normes et ceux qui ne le font pas. Il y a différents critères qui nous permettent de distinguer, de voir les différents types de registraires. Je vais reprendre ce que j'étais en train de dire et je vais vous parler de l'outil de Whois. Les questions concernant cet outil de Whois portent sur... Alors, j'ai un doute quant à la séquence de URL. Une proportion très faible concernant ces doutes, ces questions, concerne un sous-groupe de 4 noms que j'ai. Donc, en ce qui concerne l'outil de Whois, qui vérifie donc le contenu de Whois, je pense que c'est assez confus. Si on regarde la capacité de connexion sur le port 43, je crois que il suffirait. Cela nous indique, cela nous montre qu'on a un serveur Whois de l'autre côté de la connexion. Donc, demander des informations sur Whois serait une façon de le faire. Je ne sais pas comment vous faites, mais je pense qu'il serait utile de comparer les différents échantillons que l'on a et de les comparer avec les précédents pour voir s'il y a eu des changements ou pas. Je crois qu'on peut améliorer cela comme cela. Voilà, c'est ce que je voulais dire en ce qui concerne les outils pour Whois. J'ai l'impression que cet outil est utilisé pour voir si les informations sont correctes ou si ces informations sont correctement complétées. C'est pour vérifier comment le port 43 fonctionne, parce que s'il n'y a pas d'accès, on ne saura pas quelle est la substance de Ruiz et si on reçoit des plaintes sur Ruiz pour voir si ça fonctionne ou pas, hein, nous devons nous assurer que les registraires fournissent les prérequis ou répondent aux critères techniques qui figurent dans le contrat. Nous actualisons actuellement notre outil et j'aimerais que vous nous fassiez des commentaires par écrit pour pouvoir en parler ensuite avec l'équipe technique et faire les améliorations nécessaires en fonction de vos suggestions et de celles de la communauté. Je pense qu'il y a certaines choses qui doivent être modifiées dans cet outil pour le rendre plus efficient. Hein. Donc, j'apprécie ces commentaires hein, et je vous demanderai même d'en faire d'autres. Ce sont des commentaires qui sont tout à fait utiles pour nous. Si l'on parle de respect des normes, hein, ou de conformité, il faut faire des commentaires. Hein. Notre travail est plein de défis, mais nous devons ici créer un modèle. Lorsqu'on entend des critiques, on peut aussi améliorer le travail en fonction de ces critiques. Hein. Voilà, ça nous permet donc d'être plus performants. Je n'ai pas fini. Hein. Je voudrais, Evan, il y a des gens qui doivent quitter la salle. Donc, s'il te plaît, fais-nous ton commentaire rapidement. Ensuite, je donnerai la parole à Olivier. Je vais donner la parole à Evan. Je voulais simplement dire que les thèmes que vous avez mentionnés ne sont pas incompatibles. Les gens veulent voir un bon fonctionnement des registraires et des registrants. Ce ne sont pas des questions qui sont incompatibles. Cela signifie donner une opportunité aux usagers pour qu'ils connaissent le thème. Je pense que c'est bien. Traitons pas cela de manière équitable. En ce qui concerne l'équité, je dirais que les questions posées sont intéressantes. On pourrait, si vous voulez, envoyer un email. Et si vous voulez, vous faites la deuxième partie de votre commentaire par écrit. Oui, mais je voudrais aussi parler du contrôle du port 43. Nous n'avons pas encore développé un outil pour cela. Il est probable que l'on commence à travailler sur cet outil. Il y a une copie du document à ce propos.
Port 80.
Et pour conclure notre registre, je vous remercie d'avoir participé à cette séance. Nous vous remercions et nous remercions les orateurs. Et nous espérons que nous pourrons continuer à discuter de ces thèmes-là et de ces questions-là plus tard. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Et je vous prie de nous excuser si certaines questions ont été un petit peu désagréables. Merci. Merci, messieurs, dames, pour votre participation à cette session. Bien. Continuez à faire vos suggestions. Merci beaucoup.
La pause du matin que vous n'avez pas eu, on ne peut plus la faire, mais on a pu faire amener un peu une petite quantité de nourriture. Et c'est un résultat plutôt décevant, mais tous les sandwichs auront de la viande, et c'est de la viande qui n'est pas adéquate pour certains d'entre nous. Donc, ceux qui ne n'ont pas de restrictions culturelles ou religieuses vont ne vont pas trouver quoi que ce soit à manger, malheureusement. Mais pour les autres, en tout cas, vous aurez des sandwichs. Donc, allez-y, prenez le formulaire qui est la charte que nous allons analyser et on va trouver un peu de nourriture pour nous redonner l'énergie à nos cellules cérébrales et on va faire avec. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.